À la présentation, bonjour à tous. Débat autour de la configuration du prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale. Devra-t-il représenter les données des élections ou les coalitions politiques qui forment la majorité au sein de cette institution? C'est la deuxième possibilité qui a été adoptée justement par la majorité formée par l'AMP, déboutant le point de vue de l'UN. Les autorités administratives et militaires de Bolobo suspendues, c'est l'une des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur à l'issue de son séjour dans ce territoire de la province de Bandundu, où les Tende et les Nounous étaient en conflit terrien la semaine dernière. La navigation sur le fleuve devient difficile, le prix des produits vivriers de première nécessité a augmenté et la puissance de la centrale hydroélectrique de la Tchopo est en baisse. Ce sont les conséquences de la montée des eaux du fleuve Congo et ses affluents dans la ville de Kisangani. Les détails dans ce journal. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale devra comprendre les membres des principales forces politiques et refléter la configuration politique actuelle de cette institution. C'est ce qu'a décidé hier par un vote majoritaire la plénière de l'Assemblée nationale autour de l'article 22 du projet de son règlement intérieur. Selon un amendement introduit par l'Union pour la Nation, le bureau définitif devrait plutôt refléter les résultats électoraux et non les combinaisons politiques. Amendement rejeté par l'AMP qui a la majorité parlementaire. Pour le député UN Deli Sesanga, il n'y a pas une autre voie pour résister que la rue. Il l'a dit au micro de Jeff Ngoy.
Le mouvement de libération du Congo, c'est notre formation politique, entend jouer un rôle dans la gestion de cette Assemblée nationale, entend faire de cette Assemblée nationale une assemblée responsable et non pas une assemblée godillot à la solde d'un gouvernement. Et pour cela, nous pensons que cet article devait être modifié pour préciser les critères sur base desquels on devrait tenir compte de la configuration politique. Je pensais que la majorité allait approuver ce bon sens, mais cet amendement a été rejeté. Il nous reste encore d'autres possibilités après l'adoption du règlement intérieur. Nous avons amendé le texte en proposant que cette configuration politique devrait se faire conformément aux résultats électoraux et non pas aux combinaisons politiques entre politiciens à l'intérieur de la Chambre. Il me semble que dans la Chambre, on a préféré la combinaison politique aux résultats électoraux. Et c'est un message envoyé à nos concitoyens de savoir qu'avec cette Assemblée, avec le phénomène majoritaire tel qu'il se dégage aujourd'hui, il n'y aura pas d'existence dans les institutions et que notre seule existence sera dans la rue.
De son côté, le député AMP Olivier Kamitatou estime que ce vote parlementaire en faveur d'un bureau contrôlé par la majorité n'est que la résultante des élections par lesquelles le peuple s'est exprimé. Olivier Kamitatou, toujours au micro de Jeff Ngoy.
Il y a simplement une majorité qui s'exprime et il est clair, l'article tel qu'adopté, nous allons nous efforcer de reproduire les différents courants politiques qui traversent l'Assemblée nationale. Il est clair que le courant majoritaire est celui de l'alliance de la majorité présidentielle de l'AMP, de ses alliés, le PALU et l'UDEMO, mais ça c'est la résultante d'une élection qui vient de se dérouler. Donc je crois que la formulation de l'article est très heureuse parce qu'elle permet également la concertation politique. Quand on s'efforce de relever quels sont les courants qui traverse une Assemblée nationale, ça veut dire qu'on doit discuter avec les uns et les autres. Par rapport aux extrémistes qui voulaient qu'on élague totalement cet article et qu'on n'y fasse pas cas, je crois qu'il y a là un moyen terme, une formule judicieuse qui a été trouvée par notre bureau. Nous allons donc tenir compte, à travers la discussion, un dialogue, une concertation permanente de tous les courants. Pour nous, dominer n'est pas écraser.
La requête de l'Union pour la Nation en file d'examen à la Cour suprême de justice. Cette institution a 7 jours avant de formuler sa réponse sous forme d'arrêt. L'arrêt se prend au cours de la réunion des 5 hauts magistrats représentant les 5 chambres de cette haute cour qui vont examiner cette requête. En cas de difficulté, la Cour pourra recourir aux experts en matière des contentieux électoraux. Jérôme Wani, greffier principal de la haute cour, au micro de Guy Maté.
Le recours a été reçu depuis le samedi vers 13h par les greffiers en chef de la Cour suprême de justice. Et la procédure suit son cours normal. Et l'examen se poursuit au niveau de la Cour suprême de justice. Dès que l'examen est terminé, on va fixer la date d'audience. Et toutes les parties seront notifiées à la date d'audience pour permettre à leurs avocats de déposer leurs conclusions. Selon la loi, nous avons 7 jours. C'est la loi électorale qui donne ça. En cas de difficulté, la Cour peut peut-être voir si on peut prolonger la date de prononcé. Dans 1 ou 2 semaines, il peut le faire. Le fait de se juger par la Cour suprême, on ne dit pas que c'est tel juge ou tel juge. C'est une œuvre collégiale, c'est la Cour.
Les FONUS, force novatrice pour l'union et la solidarité, dénoncent la perquisition de son siège provincial en face du stade des Martyrs sans un quelconque mandat judiciaire par des éléments de la police nationale congolaise le jeudi dernier. Les FONUS dénoncent aussi l'arrestation de Ngapani, alias américain, commandant des surveillants de ce siège par la même occasion. Selon le secrétaire exécutif de ce parti chargé des questions juridiques, des sévices corporels et autres traitements inhumains et dégradants ont été infligés à plusieurs de leurs militants. C'est ce qu'a déclaré hier à Radio Kapi Thomas Otchoudi, secrétaire exécutif national du FONUS, chargé des questions juridiques. On l'écoute, joint par Nazan Koko.
En milieu d'après-midi, quelques 2-3 jeeps ont fait irruption devant le siège avec des policiers qui se sont introduits sans aucun mandat de justice. Ils ont interpellé les combattants des FONUS qui s'y trouvaient. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique d'un des combattants américains, comme il s'appelle communément. Deux autres combattants ont été copieusement tabassés.
Combien de vos militants ont été arrêtés à cet effet?
À cette occasion, deux avaient pris fuite, mais il y a un seul qui avait été appréhendé. Mais tous les autres qui étaient sur place avaient d'abord été brutalisés, tabassés, et puis il y a eu même certains biens qui ont été emportés. Deux chaises en plastique, tout le matériel qu'ils ont trouvé, les fournitures de bureaux, un appareil fixe de téléphone. Ils ont forcé même le bureau du président provincial des FONUS.
Contacté, l'inspecteur provincial de la police à Kinshasa a indiqué que le chef des surveillants du siège des FONUS a été interpellé pour avoir troublé l'ordre public en brûlant des pneus sur le boulevard Triomphal au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle par la CEI. Il a été verbalisé et sera mis à la disposition du parquet de Kalamu ce mardi. Toujours selon le général Patrick Sabiti, aucun combattant n'a subi un quelconque traitement inhumain et dégradant. Le téléphone confisqué lui sera restitué au moment venu. Direction province du Katanga, où une manifestation de joie a tourné au pillage à Manono. Des militants de l'Alliance pour la majorité présidentielle manifestaient leur joie dans les rues le week-end dernier. C'était pour célébrer la victoire de Joseph Kabila. Quelque temps après, ils ont commencé à piller le marché de la cité et celui de cette ville située à 400 km à l'ouest de Kalemie. La résidence du chef de cité adjoint a aussi été ciblée à cause de son appartenance politique. C'est ce que nous dit Ildefonse Kitenge dans ce reportage.
Selon un enseignant de Manono et plusieurs sources indépendantes contactées au téléphone, des militants de l'Alliance pour la majorité présidentielle ont pillé dimanche les biens des commerçants dans le marché de la cité ainsi que le marché de la clinique au centre-ville. Tout a commencé par une manifestation de joie après l'annonce de la victoire de Joseph Kabila au second tour de la présidentielle, a indiqué la même source. Et de poursuivre, nous citons, nous avons aperçu ces mêmes manifestants vers la mi-journée, munis des bâtons. Ils ont par ailleurs attaqué la résidence du chef de cité adjoint, M. Yuyu Kyungu, ainsi que celle de M. Bakwakumbi, pensé qu'ils ont complètement dévalisé. D'après les renseignements recueillis, ces deux personnalités ont été visées à cause de leur appartenance au Rassemblement congolais pour la démocratie. Des éléments de la police ont vite été déployés sur les lieux. Ils sont parvenus à disperser les manifestants en tirant des coups de feu en l'air. Et même, il y aurait eu plusieurs interpellations. Selon ces mêmes sources, les troupes de la MONUC ont également été déployées dans le secteur des manifestations. Jusqu'à ce lundi matin, les activités n'avaient toujours pas repris au marché de Kalemie. Il défonce Kitenge Maïboué pour la radio Okapi.
Processus électoral en RDC, près de 82% des résultats sont déjà compilés. La publication des résultats des élections provinciales est pour très bientôt. Déclaration faite hier par le porte-parole du président de la commission électorale indépendante au cours d'un point de presse organisé par la CEI en son siège de la Gombe. Délion Kimpulumpu confirme qu'il y a une nette avancée dans les travaux de compilation des résultats des élections législatives provinciales. Écoutons-le au micro de Stéphane Kendintita.
Pour les législatives provinciales, nous avons atteint 82,20% des résultats déjà traités, compilés. Dans les prochains jours, on amorcera certainement l'affichage à travers les centres locaux de compilation pour l'ensemble. Et cela ne va pas durer. Je pense que nous ferons ça en très peu de temps pour l'ensemble du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes très très avancés par rapport aux législatives provinciales. En même temps, l'enregistrement des candidats pour l'élection des sénateurs avance également. Nous en sommes à plus de 2000 retraits de fiches de candidatures, mais on n'en a que plus de 300 candidats déjà enregistrés. Donc nous estimons que c'est déjà beaucoup, puisqu'il est question d'élire 108 sénateurs à travers le pays. À partir de demain déjà, le bureau de la commission électorale va commencer à se réunir Et dans les prochains jours, le bureau va décider de quel jour on amorce l'annonce des résultats au niveau des législatives provinciales.
Des sanctions sont tombées à l'issue du conflit terrien entre les Nounous et les Tendé dans le territoire de Bolobo, province de Bandundu. Le ministre de l'Intérieur annonce la démission des autorités administratives et militaires de ce territoire. Le général Denis Kaloumé a pris un certain nombre d'autres mesures pour éviter de nouveaux affrontements interethniques à Bolobo. Il l'a dit hier à Radio Kapi au terme de sa visite dans cette localité. Denis Kaloumé, joint par Nazaire Nkoko.
Nous nous sommes rendus compte que l'État était défaillant et que tous les responsables n'ont pas agi correctement. Ainsi que nous avons décidé de rappeler toutes les autorités qui étaient là, les commissaires des districts, les responsables de la police, les responsables de l'armée.
Excellence, à part ce rappel à l'ordre des autorités administratives, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été envisagées?
Il y a des mesures pour faire renaître la confiance entre les communautés et favoriser une cohabitation pacifique. C'est la création d'un bazar intercommunautaire. Nous avons promis la semaine prochaine de leur amener une radio intercommunautaire aussi pour lutter contre les rumeurs et leur donner une éducation civique et aussi participer à la promotion de l'activité économique. Et nous comptons la semaine prochaine aussi organiser un séminaire là-bas avec comme thème Coalition pour la paix à Bolobo. Mais aussi des mesures pour soulager la misère de la population. Hein. C'est la création des coopératives interethniques entre pêche, dans l'agriculture et l'élevage.
Rappelons que des affrontements interethniques qui ont opposé du 15 au 19 novembre dernier les Tendé et Nounou ont fait, selon le ministre de l'Intérieur, 6 morts, 8 selon des sources hospitalières, 27 blessés et plusieurs personnes déplacées. Au Kasaï occidental, l'administrateur diocésain de l'archidiocèse de Kananga dénonce l'application discriminatoire des taxes de séjour sauf conduit, une décision qui réglemente le séjour des étrangers en zone minière. Selon l'archidiocèse, les taxes et les tracasseries y afférentes découragent l'arrivée des investisseurs au Kasaï occidental. Will Kalumbo.
Il faut environ 200 à 400 dollars par personne selon la mission de chacun pour qu'un étranger séjourne au Kasaï occidental. Outre cette taxe, ces visiteurs sont victimes des tracasseries récurrentes à l'aéroport. Et pour recevoir ces documents afin de s'y rendre au Kasaï, ils passent plusieurs jours dans les couloirs des ministères concernés à Kinshasa. C'est au cours d'une rencontre avec le gouverneur des provinces que l'administrateur diocésain de l'archidiocèse du Kasaï a évoqué de nombreuses difficultés qui rencontrent les étrangers qui viennent pour le compte de l'Église, pour des activités humanitaires ou académiques. Selon Mgr Marcel Madila, ces difficultés constituent un frein au développement de la province. Même son de cloche du côté des organisations non gouvernementales de développement, qui disent avoir adressé un mémo à ce sujet au gouvernement, mémo qui est resté sans suite jusqu'à ce jour. Crispin Ivo Dikumina, secrétaire exécutif des CRANG de Kasaï Occidental.
Oui, effectivement, l'existence de cette loi constitue un goulot d'étranglement pour le développement de la province du Kasaï Occidental. Comme c'était signé par le décret de loi, il n'y a qu'un autre décret qui doit bannir cette loi discriminatoire.
Pour sa part, le gouverneur des provinces qui déplore cet état de fait a lui-même qualifié cette loi d'injuste. Il promet de tout faire pour sortir son entité du tunnel. Kananga, Willy Kalombo, Radio Kapi.
Nous le disions en titre, les eaux du fleuve Congo et ses affluents dans la ville de Kisangani et ses environs ne cessent de monter depuis bientôt une semaine. Les conséquences de cette crue commencent à se faire sentir dans le quotidien des Boyomés. La navigation sur le fleuve devient difficile, le prix des produits vivriers de première nécessité a augmenté et même la centrale hydroélectrique de la Tchopo accuse un coup dans sa puissance de production. José Deschart Minga.
C'est depuis une semaine que les niveaux du fleuve augmentent selon les témoignages des riverains. Ces deux derniers jours, il a été observé une montée des eaux plus rapide encore. L'avenue qui borde le fleuve du côté de la rive gauche dans la commune de Lubunga est déjà sous l'eau depuis lundi matin. Quelques maisons au bord de la rivière Djubu-Djubu dans la commune de Mangobo, au nord de la ville, sont déjà menacées par l'eau. Les conséquences des inondations se font déjà sentir. Les pirogues hors bord et autres embarcations assurant la traversée entre les deux rives des Kisangani ont difficile à accoster. Une bonne partie de leur beach est donc déjà engloutie par le fleuve. Les prix des produits vivriers qui viennent par voie fluviale de l'autre rive ou en aval du fleuve dans les territoires d'Isangi ont pris de l'ascenseur. Une bouteille d'huile de palme qui se vendait à 150 francs il y a deux semaines se vend aujourd'hui à 200. Un gobelet de riz est passé de 120 à 170 francs congolais. La centrale hydroélectrique de la Tchopo est également touchée. La chute d'eau étant moins importante suite à la crue de la rivière, la centrale connaît déjà une diminution de puissance suite à une chute d'eau moins importante. Sa capacité de production en est touchée, selon des responsables de la SNEL. Rappelons que la dernière grande inondation date de fin 96, début 97. Kisangani, José Descharte Menga, Radio Okapi.
Une seule nouvelle en page internationale, le parquet de Paris a donné hier lundi son accord au juge d'instruction pour qu'il délivre des mandats d'arrêt internationaux contre 9 proches du président rwandais Paul Kagame dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre son prédécesseur en avril 1994, a appris de sources judiciaires. Cet attentat contre le président Juvénal Habyarimana est considéré comme l'élément déclencheur du génocide des Tutsis. Ces mandats d'arrêt visent notamment l'actuel chef d'état-major général des forces rwandaises de défense James Kabarebe, ainsi que le chef d'état-major de l'armée de terre Charles Kayonga. C'est par cette nouvelle que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net.